bringt fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Sie werden in dieser Sendung afrikanische entdecken, seine Musik und Politik. Heute haben Sie sind auf Radio Kanal K. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Viel Spaß auf Kanal K. Bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir Gabon, Mali, Togo, Burkina Faso, Cameroun, Niger, Côte d'Ivoire, Bénin. Merci d'être en direct avec nous sur le www.canalk.ch. Vous suivez Fenêtre sur l'Afrique, une émission de débat politique et culturel africaine, un programme hebdomadaire de Radio Canal K en Suisse. Le mardi 21 septembre dernier a marqué la journée mondiale de la paix célébrée chaque année. Cette année, le thème est 2010, année de paix et de sécurité en Afrique. Nous recevons dans quelques instants en ligne depuis Lomé, M. Richard Fung, représentant du Bureau des Nations Unies pour la paix et le désarmement résident au Togo. La crise politique au Togo après l'élection présidentielle contestée du 4 mars dernier est toujours très critique. Le musellement de la presse privée, la neutralité de l'armée, les violations des droits humains caractérisent le climat sociopolitique au Togo. Que fait concrètement les associations de défense des droits humains au Togo? Maître Afanguedi Gilles, président d'ACAT Togo, l'un des associations, tentera de répondre à nos questions en direct depuis Lomé. Et sous l'œil vigilant de Gisela Rosato, Josué Maoli et Esteban assurent la programmation musicale. Vous écoutez la voix de Sylvain Amos qui vous présente Fenêtre sur l'Afrique de ce soir. Amis fidèles auditeurs, encore une fois, bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur le www.canalk.ch. Avant toute chose, je vous livre l'éditorial de ce soir. La problématique des armées africaines, cas du Togo. Dans la nuit profonde, quand nous dormons bien chez nous, c'est qu'il y a un an qui veille à notre sécurité et quand ceux qui veillent à notre sécurité deviennent nos bourreaux, il y a péril en la demeure. Depuis les années 50, période de l'indépendance de l'Afrique francophone, la France a laissé derrière elle des États sans armée, avec à leur tête des hommes en kaki, véritable épine dorsale dans la gorge des panafricanistes. Depuis la nuit des temps, l'Afrique francophone a toujours été dirigée par des hommes en kaki, dont la plupart sont des patins de l'impérialiste. Amadou Toumani Touré du Mali, Idriss Déby du Tchad, Salou Dibo du Niger, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Sassou Nguessou du Congo et consorts. Elle, la France, a toujours joué au père de famille en continuant de former les officiers africains pour mater leurs propres frères. Si certains pays comme le Bénin se sont fait violence pour que les troupes béninoises deviennent républicaines, se cantonnant aux missions qui leur sont imparties dans le respect scrupuleux de la Constitution, le Togo, pays voisin, est malheureusement un mauvais élève. Très tôt, l'armée togolaise est sortie de sa mission première qui consiste à veiller et à protéger les citoyens. Depuis la prise du pouvoir du sergent Étienne Nyasingbé en 1967, l'armée togolaise viole et tue impunément sur le regard complice de l'opinion internationale. Il suffit de jeter un regard furtif sur son passé pour s'en apercevoir. Longtemps épinglée par Amnesty International, elle a toujours et continue de mettre le peuple sous asservissement. En 1967, Étienne Eyadéman supprime les partis politiques. Et le 23 juillet 1992, des soi-disant éléments incontrôlés qui seront identifiés plus tard assassinent impunément le jeune homme opposant charismatique Tavio Amorim. Le 5 mai de cette même année, le renégat, l'homme qui renie son passé d'opposant, Jikris Olympio, essuiera à Soudou des balles rayées du capitaine Ernest Nyasingbe, embuscade au cours de laquelle le docteur Mac Atidépé succomba. L'armée attaquera le 3 décembre 1991 la primature dirigée en ce temps par l'opposant Koko Kofigo. Cette année, cette attaque avait occasionné plusieurs morts. En 2005, l'histoire retiendra, selon le rapport international des droits de l'homme, que sous la houlette d'un certain général Zakari Nanja, l'armée togolaise a encore fait parler d'elle en mal en violant la constitution togolaise. Ainsi, Fornia Singbe, fils, succéda au père. Comme si cela ne suffisait pas, en 2005, lors de l'élection présidentielle, certains militaires togolais se sont rendus au bureau de vote du CEG de Béplage, puis à Bégard pour voler, s'il vous plaît, voler les urnes et prendre la tangente. La vidéo a parcouru malheureusement le monde entier. Mauvais exemple pour l'Afrique et le Togo. Pourtant, cette élection, entachée d'irrégularités et de mascarades, fut validée par la communauté européenne. Comprenne qui pourra. Le corps habillé a-t-il rempli sa mission de protecteur et de neutralité dans le processus de démocratisation au Togo? À vous de juger. Chose paradoxale et écœurante, Abbas Bonfo, président par intérim d'alors et actuel président de l'Assemblée nationale, vient de faire une sortie médiatique pour remuer le couteau dans les plaies des victimes en affirmant n'avoir vu en 2005 aucun mort, alors qu'il y a eu près de 400 à 500 morts au cours de cette mascarade. Ce monsieur ne mérite pas du moins le respect du peuple agonisant sous l'emprise de la dictature. Voilà pourquoi nous pensons, comme la majorité du peuple togolais, que Abbas Bonfo appartient à la catégorie des petits hommes sur la terre. Affirmons au vu et au su de tout ce qui précède que ces quelques hommes, petits hommes en kaki, font la honte de la nation togolaise. N'est-il pas écrit quelque part dans la Sainte Écriture que les criminels verront le châtiment de la part de Dieu pour leurs crimes? Le peuple togolais attend vivement ce moment. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et le Togo.
Peuple, le Seigneur va rétablir, oh, l'unité de son peuple.
Eh bien, les criminels verront le châtiment de la part de Dieu pour leur crime, le voile noir de deuil qui nous sera envoilé et chanté par l'artiste évangéliste John Starr depuis Lomé. Fabi Kwasi, notre correspondante permanente à Lomé, nous a déjà rejoint dans cette émission. On la reçoit tout de suite pour les briefings sur l'actualité politique au Togo. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir à tous nos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner dans Fenêtre sur l'Afrique. Fabi, le FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement au Togo, a-t-il tenu la manifestation de tous les samedis et contre la réélection de Fonia Singbé?
Sylvain, le bras de fer entre forces de sécurité et maintenant milice du pouvoir et responsable du FRAC se poursuit. Le dispositif s'est renforcé ce samedi et couvre le tronçon des ponts jusqu'à Kolenzi avec beaucoup d'infiltrations des personnes en civil qui suivent et surveillent la presse, les populations, les immigrants, comme dirait sur le feu. Mais ces personnes sont trahies par leur allure, leur corpulence et leur façon de se comporter surtout. Et donc les habitants de Kolenzi, par exemple, n'ont pas mis beaucoup de temps à les identifier. Mais contrairement aux autres samedis, la marche a eu lieu, hein, malgré les gaz lacrymogènes, on peut le dire ainsi, distribués en quantité industrielle cette fois-ci. Le convoi de Jean-Pierre Fabre a été stoppé au niveau de Carrefour des Camps, où toute une foule a suivi jusqu'à son domicile. Tout le boulevard était inondé de populations togolaises. Les forces de sécurité ont usé vraiment de gaz lacrymogènes pour disperser ce beau monde-là, mais elle n'y est pas arrivée, donc c'est une victoire pour le FRAC avec ces hommes habillés qui n'ont pas réussi à empêcher en tant que tel la marche. Et au passage du cortège, c'est beaucoup de cris, surtout des femmes togolaises qui ont accueilli M. Fabre comme un courageux, un téméraire. Et par ailleurs, Adi a pu organiser également son meeting à Kolesewa où il n'y a pas eu de tir de grenades lacrymogènes. Je viens à l'instant de là et tout se passe pour le mieux.
Oui, Fabi Kwasi, nous venons d'apprendre également que Fonia Singbé a retiré sa plainte contre les journaux privés, notamment La Liberté et La Lanterne. Fabi, est-ce que c'est à la suite des pressions internationales dans cette affaire de musulmans de la presse privée au Togo?
Pression internationale, en tout cas je ne sais pas, mais je sais que le collectif journaliste, SOS Journalistes en Danger, a mis le paquet et a internationalisé le problème du musellement de la presse. Personne ne sait quelle mouche a piqué Fonia Singbé a porté plainte et personne ne sait quelle mouche l'a piqué maintenant à les retirer, du moins celle de Liberté de la Lanterne, comme vous venez tantôt de le dire. Mais pour beaucoup, c'est parce qu'il s'est rendu compte tout simplement que c'est une bataille perdue d'avance. Il va réussir certes à supprimer ses parutions si l'affaire va en audience, puisque nous avons une justice qui est aux ordres de l'exécutif, mais aux yeux du monde, il sera perçu et est perçu comme un prédateur de la presse, et ça ne lui fait pas bonne presse, justement. Vous savez que la presse jugée critique contre le pouvoir est dans une posture de cabri mort, et à partir de là, elle n'a plus peur de rien, et surtout pas des plaintes, mais elle est résolue à défendre le libre exercice de la profession, et ça, ce ne sont pas les procès en cascade ou aux tentatives de musellement qui vont venir à bout de cette détermination. Et donc, Sylvain, pour information également, vous savez que le ministre de la Communication, le ministre Ago Dimoré, a mis sur pied un comité sectoriel pour le retour des peines d'emprisonnement pour les journalistes. Donc, ils vont retoucher le code de la presse. C'est vraiment scandaleux que ces mêmes personnes, il y a quelque temps, qui faisaient du porte-à-porte auprès de ces journaux, parce qu'un tel du pouvoir les a brimés, compose un comité pour faire taire la presse. La bataille s'annonce donc rude, et M. Dumont-Auré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, doit savoir qu'il va y laisser des plumes. Donc, Fort maintient en tout cas ses plaintes contre Indépendant Express. C'est dans tous les cas, la presse est toujours à la justice mercredi prochain pour soutenir ceux qui comparaissent. C'est dans le même registre le journal Tribune d'Afrique qui a interjeté appel suite au procès de Fonia Singbé le 25 août dernier et qui a commencé à paraître de nouveau puisque l'appel est suspensif de la décision judiciaire vient d'être définitivement suspendu juste au lendemain de la publication de la scandaleuse interview du président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfou. Donc les autorités togolaises, en somme, sont loin de vouloir laisser la presse faire son travail en toute liberté. Et comme la liberté de presse est un combat au quotidien, les journalistes veillent au grain.
Oui, Fabi Kwasi, les élèves ont repris il y a deux semaines les cours. Dans quelles conditions ces élèves ont-ils retrouvé le chemin de l'école, surtout dans cette crise politique au Togo?
Dans des conditions assez difficiles, hein, un confrère se demandait à la fin d'un de ses articles récemment, Togo, dans quel domaine émergera-tu? Il ne croit pas si bien dire car ce pays est plus que malade. est donc une rentrée des plus historiques et catastrophiques dans les annales de l'éducation du Togo. C'est une situation d'inondation avec son lot de sinistrés que les élèves, c'est dans cette situation-là que les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 13 septembre dernier. Ils sont plus de 2 millions selon les chiffres officiels. Mais nous avons fait un petit tour à Kanikope, Kagome, Ranawe, Toti, Buka et bien d'autres. Les salles de classe, les cours des écoles sont inondées. La ministre des enseignements primaires et secondaires est très fière, en tout cas, que la rentrée soit effective sur tout le territoire. Mais comme le ridicule ne tue pas par ici, elle a choisi de visiter des écoles qui ne sont pas du tout inondées, Notre-Dame des Apôtres, Jardin d'enfants général et Adémon, pour enfin déclarer gaiement que tout va bien dans le meilleur des mondes. Au sujet Buka, par exemple, Sylvain, vous serez étonné que des élèves ont sur des cours avec des grenouilles et des serpents. Et ce ne sont pas des histoires parce que c'est des réalités togolaises que les gouvernants font semblant d'oublier. Pendant ce temps-là, ils ont vite fait de mettre leurs enfants dans les écoles en Occident ou à l'école française ici à coups de millions. Pendant que les pauvres élèves du Togo naviguent dans l'eau. Et depuis une dizaine de jours, il ne fait que pleuvoir tous les jours. Et pratiquement la plupart des écoles dans les quartiers inondés sont obligées de fermer parce que les élèves ne peuvent pas apprendre dans ces conditions-là. Donc la situation du pays dans tous les compartiments, à tous les points de vue, est plus que chaotique.
Fabi Kwasi, merci. Eh bien, c'était Fabi Kwasi, notre correspondante permanente depuis Lomé. Nous revenons encore une fois ce soir dans cette émission et sur la manifestation internationale contre le système France-Afrique. Jean-Aimé Moukitou, l'un des organisateurs de cette manifestation, est déjà en ligne en direct depuis Paris. J'espère qu'il est déjà en ligne. Bonsoir Jean-Aimé Moukitou.
Bonsoir Monsieur Sylvain Arbon.
Oui. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes l'un des organisateurs de la manifestation internationale du 28 septembre prochain et contre le système France-Afrique. Est-ce que le message qui sera passé est identique au niveau de tous les pays africains prenant parti? Et Jean-Aimé Moukitou.
Oui, tout à fait. Nous sommes, je vous rassure déjà que nous sommes fin prêts à Paris en France pour organiser cette manifestation internationale. Hein. Contre les manœuvres, les agissements de la France-Afrique qui continuent depuis la conférence de Brazzaville en 1944 et surtout depuis l'accession donc aux indépendances de nos États, des indépendances version de Général de Gaulle, des indépendances donc qui ont été octroyées, des indépendances qui sont sous forme de surveillance. Donc il y a plusieurs pays effectivement au niveau du continent africain qui prennent part à cette manifestation. Nous sommes en contact avec le Togo, nous sommes en contact avec quelques associations par exemple au niveau du Gabon et dans d'autres pays si vous voulez donc de l'Afrique francophone. Et au sein de l'Occident, nous avons les États-Unis, la Suisse, la France, l'Allemagne, un peu partout dans le monde entier. Donc il s'agit d'une manifestation internationale.
Oui, Jean-Aimé Moukitou, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette manifestation contre le système France-Afrique?
Alors, qu'est-ce que nous attendons, si vous voulez, concrètement, contre ce système de la France-Afrique, hein? Nous sommes là pour non seulement condamner cette France-Afrique qui nous impose, si vous voulez, donc des gouvernements, des chefs d'État qui vivent dans la bêtise constante, qui sont, si vous voulez, ces gouvernements, ces chefs d'État, qui sont animés pour la plupart par un doute permanent, qui manque de confiance. Vous voyez par exemple le président togolais, le président gabonais, ce sont les fils, si vous voulez, des anciens chefs d'État qui n'ont jamais été élus par leur population, donc qui ont été placés là juste pour servir, si vous voulez, donc les intérêts, si vous voulez, donc de la France. Donc ce sont des chefs d'État qui s'interdisent donc par rapport à la France, surtout de poser des actes, si vous voulez, donc des actes positifs. Donc par rapport à cette manifestation, nous voulons dire non à cette France-Afrique qui ne fait pas avancer le continent, si vous voulez, donc surtout le continent noir, dans tous les domaines politiques, les domaines culturels, les domaines économiques, etc., etc. Donc, pour nous, c'est un message que nous voulons, un message fort, un message international que nous voulons lancer contre ces chefs d'État qui vivent, comme je disais, donc dans la bêtise totale et qui n'ont aucune légitimité populaire. Hein. Ce sont, si vous voulez, ces valets-là de la France-Afrique que nous condamnons aujourd'hui. Nous voulons une Afrique, si vous voulez, une Afrique indépendante.
Oui, Jean-Aimé Mouguitou, je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices de Radio Canal K dans Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes Gabonais. Aimé Jean Mouguitou, vous êtes Gabonais, je viens de le dire, et votre pays, le Gabon, est aussi envahi par la Chine comme la plupart des pays africains. Que vous inspire cette nouvelle coopération Chine-Afrique, Jean Mouguitou?
Moi, je pense que la nouvelle coopération avec l'Afrique, disons entre l'Afrique et la Chine, c'est une coopération qui va pas dans le bon sens, parce que sur le plan démocratique, hein, sur le plan de la démocratie, je ne pense pas que nos États, le Togo, le Gabon, le Sénégal et les autres États de l'Afrique francophone, je pense pas que nous pouvons attendre quelque chose de concret. Si vous voulez, sur le plan de la démocratie, la Chine ne peut pas nous apporter la démocratie. La Chine, elle arrive, si vous voulez, donc dans nos États. Certes, c'est pour poser des actes, pour construire des écoles, pour construire, je prends par exemple le cas de mon pays d'origine, le Gabon. La Chine a construit le Sénat. Si vous arrivez au Sénat, vous allez voir les bâtiments qui ont été construits par la Chine. Ce sont des bâtiments, des immeubles qui sont en train de se fissurer. Donc, ce sont des, si vous voulez, des coopérations qui ne sont pas concrètes par rapport à nos États. Nous voulons, si vous voulez, une Afrique indépendante par rapport à toutes ces puissances, une Afrique qui veut s'intégrer, si vous voulez, sur la voie de l'industrialisation, sur la voie de la mondialisation, sur la voie, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui des puissances émergentes, au même titre que le Brésil, l'Inde, etc., etc.
Oui, Jean Mouguitou, il y a 50 ans que ce système France-Afrique existe. La faute est-elle aux Africains eux-mêmes, Jean Mouguitou?
Ah oui, bien sûr, la faute... il ne faudrait pas qu'on généralise. Hein. La faute ne revient pas à tous les Africains. La faute revient d'abord, si vous voulez, donc, à nos gouvernements, comme je le disais tantôt, à nos chefs d'État qui vivent dans cette bêtise constante, qui ne veulent pas, si vous voulez, qui n'aiment pas déjà leurs États, qui n'aiment pas l'Afrique, vous voyez, qui ont été placés là juste pour défendre, si vous voulez, donc, les intérêts de la France, hein, ces régimes totalitaires qui sont devenus, si vous voulez, de simples extensions de la mainmise française, vous voyez, sur tout le continent, donc, de l'Afrique, et des régimes qui sont juste là pour pratiquer la répression, les détournements de biens publics, et surtout la corruption, et qui ne s'occupent pas, si vous voulez, donc, de leur population, les populations qui vivent pour la plupart dans la misère. Vous voyez, par exemple, quand je parle de la faute de nos dirigeants, de nos chefs d'État, il y a aussi la faute aussi des pseudo-opposants. Prenez le cas, par exemple, du Gabon ou bien du Togo. Prenons le cas du Togo. Moi, je suis gabonais, je sais à peu près ce qui se passe au Togo. Vous avez le cas, par exemple, de Gilles Chris Olympio, qui a été un grand homme politique opposant, qui aujourd'hui, vous voyez par exemple la zizanie qu'il est en train de crier au sein de la classe politique même de l'opposition, il s'est rapproché, si vous voulez donc, de ces dynasties qui sont en train de s'enraciner dans nos États. Vous voyez, ça c'est ceux-là qui sont d'abord les premiers responsables donc du malheur de l'Afrique. Donc ces pseudo-opposants et ces chefs d'État et ces gouvernements, si vous voulez donc, irresponsables, qui n'aiment pas, si vous voulez donc, leurs États. Et ensuite, vous avez aussi des Africains qui vivent ici, en Occident, qui sont installés en Occident. Malheureusement, ils sont pas nombreux et qui font aussi le jeu, si vous voulez, donc, de cette France-Afrique. Et à côté de tout ce monde africain, vous avez des Français, parce que quand on parle des Français, il ne s'agit pas, par exemple, de toute la population française, il s'agit d'une classe politique, si vous voulez, donc, française, une classe, si vous voulez, donc, mafieuse, à l'instar, si vous voulez, donc, de Robert Bougie, vous avez le défunt Jacques Foccart, etc., etc. Ce sont ceux-là, si vous voulez, donc, les responsables du malheur, si vous voulez, donc, de notre continent.
Oui, Jean Mouguitou, et merci encore une fois d'être en direct avec nous. Jean Mouguitou, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. Je précise que vous êtes l'un des organisateurs de la manifestation internationale du 28 septembre prochain contre le système France-Afrique. Vous êtes également docteur en géographie et écrivain. Votre dernier ouvrage s'intitule « Politique institutionnelle et organisation des territoires productifs, cas du cacao et du café ». Encore une fois, merci et bonsoir chez vous. Eh bien, et le président de l'Assemblée nationale togolaise, El Hadj Abbas Bonfou, a accordé une interview au magazine Tribune d'Afrique, dans laquelle il nie la réalité des massacres d'avril 2005. Cela a suscité de vives tensions dans l'opinion nationale. Déjà cette semaine, la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, l'Action des chrétiens contre la torture à Togo et le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, viennent d'exiger la démission d'Abbas Bonfo. Nous recevons à ce sujet tout de suite en direct depuis Lomé, Maître Gilles Benoît Afangbedi, président d'ACAT Togo. Bonsoir, Maître Gilles Benoît Afangbedi.
Bonsoir, Monsieur Amos.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse. Vous êtes président d'ACAT Togo, une association de défense des droits humains au Togo. Pourquoi demandez-vous la démission d'Abbas Bonfo, l'actuel président du Parlement togolais?
Je voudrais avant toute chose vous remercier de la confiance que vous me faites en décidant de m'interviewer sur la situation des droits de l'homme dans notre pays, le Togo. Je précise, comme vous l'avez dit, que j'interviens en tant que président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, branche togolaise, ACAT Togo. Pour répondre à votre question, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Car si aujourd'hui, nous demandons la démission de M. Abbas Bonfo, de son poste de président de l'Assemblée nationale togolaise, c'est parce qu'il a tenu des propos négationnistes. Et ces propos ne sont pas de nature à préserver le climat de réconciliation que pour le chef de l'État togolais et pour lequel la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a été créé. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'interview que le journal Tribune d'Afrique a accordé à M. Abbas Bonfo l'a amené à déclarer, je le cite, « Même quand vous racontez qu'il y a eu des morts au Togo, quels sont ou ont ont-ils été enterrés et qui s'en était plein? Ce ne sont que des histoires auxquelles je ne crois pas, parce que je n'ai rien vu de la sorte, pas un seul mort. Et de poursuivre, je le cite, toujours qu'on ne nous montre pas les morts ou les fosses communes dans lesquelles ils ont été enterrés. Je n'ai vu aucun cadavre. » Voilà, M. Amos, les propos de M. Abbas Bonfo, l'actuel président de l'Assemblée nationale. En clair,
oui,
ces propos sont graves,
car
je ne vous apprends rien. Pendant l'élection présidentielle de 2005, M. Abbas Bonfo, était chef de l'État par intérim. Et lorsqu'il était question des morts au cours de ce scrutin, le gouvernement togolais avait créé une commission indépendante que nous appelons communément commission Kofigo, qui avait rendu un rapport faisant état de 150 morts. Je crois que vous me suivez très bien. Et même les Nations Unies ont créé une commission indépendante qui a produit un rapport dénonçant entre 400 et 500 morts, sans oublier la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui avait également reconnu qu'il y avait eu des morts.
Oui, Maître Afangbedi, maintenant, face à cette situation, est-ce une démission qu'il faut exiger ou une traduction en justice de M. Bonfo et qui est plus appropriée?
Oui, la démission à laquelle nous avions appelé M. Abbas Bonfo n'est qu'une première étape de nos actions. Et il peut arriver que nous sollicitions la juridiction togolaise ou internationale de se saisir de cette affaire, M. Abbas.
Oui, et Maître Afangbedi, les associations de défense des droits de l'homme du Togo dénoncent les exactions des droits de l'homme, mais ne font rien pour les concrétiser. Les Togolais ne seront pas étonnés de voir encore Abbas Bonfo à son poste peinard. Et que comptez-vous faire concrètement pour qu'il rende le tablier, Maître Afangbedi?
Merci, M. Amos. Je voudrais vous dire qu'à la place des exactions des droits de l'homme, je souhaiterais que nous parlions plutôt de violation des droits de l'homme. Je pense que c'est une observation non fondée que de penser que les associations de défense des droits de l'homme au Togo ne font rien pour lutter contre les violations des droits de l'homme fondamentaux des citoyens. Car, par nos actions, je vous le dis très bien, des militants de l'opposition arrêtés au lendemain de la présidentielle de mars dernier ont recouvré leur liberté. Et si vous voulez des noms, M. Hamon, je peux vous citer Fulbert Akisson, Guillaume Kokoumessan, Éric Soliwasi, Yao Abobi et bien d'autres personnes qui ont été arrêtées et qui, par nos actions, nous avons plaidé devant les juridictions togolaises, elles ont été arrêtées, elles ont été libérées. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas des associations qui ne font rien. Nous nous battons tous les jours et ça continue puisque la lutte continue, M. Amos.
Oui, Maître Afanguedi, depuis que le Togo a réouvert un autre registre en matière de régression sur les droits humains, beaucoup vous accusent de votre inaction. Est-ce à dire que les associations au Togo attendent des situations comme celle d'Abbas Bonfo pour réagir promptement?
Monsieur Amos, j'admire votre ténacité revenue sur la même question, mais sous une autre forme, puisque je viens de vous répondre en vous donnant même un exemple récent sur quelques-unes de nos actions, notamment celle qui a conduit à la libération des militants de l'opposition arrêtés au lendemain de l'élection présidentielle du 4 mars 2010. Donc, c'est une façon pour vous de revenir sur la question. Mais je dis que par nos actions, nous avons pu libérer, nous avons pu faire libérer beaucoup de gens. Et je vous ai cité des noms. Et la fois dernière même, nous avions sorti un communiqué suite à la conférence de presse que nous avions faite à Brodahomey. Et ce communiqué a parlé de M. Folipo. Folipo, c'est ce militant de l'opposition qui a été en pleine circulation, défendu à la prison civile de Lomé. Et par nos actions, au jour d'aujourd'hui, il a été libéré. Nous ne sommes pas sans savoir également que le chef de l'État avait porté plainte contre un certain nombre de journaux de la place. Aujourd'hui, il est clair et évident que le chef de l'État a retiré sa plainte, puisque dans notre déclaration, c'est moi-même, Maître Afanguedi, qui ai lu la déclaration. On a vu que ce n'est pas bien que le chef de l'État s'attaque aux journalistes. Je m'infime, il vient de retirer mes plaintes, on ne peut que s'en réjouir.
Oui, Maître Afanguedi, et avec un tel tableau que vous-même vous venez de dessiner, n'est-ce pas de la malhonnêteté intellectuelle que de croire que la commission Vérité, Justice et Réconciliation va réussir sa mission?
Je reconnais que la mission de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est très délicate. Mais est-ce pour autant une raison pour abandonner cette voie? Je ne le pense pas. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Vous savez, ce que j'appelle le tissu social togolais est aujourd'hui totalement déchiré. Et vous conviendrez avec moi qu'il nous faut des hommes de bonne foi et de bonne volonté pour sortir notre pays de ce bourbier. Ailleurs, les gens ne parlent plus de démocratie, mais de développement. Mais nous autres, nous sommes restés à toujours nous chercher. Tout compte fait, en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, j'estime qu'il faut identifier, traduire devant les institutions compétentes les auteurs des violences, de quelle nature qu'elles soient. Ce serait une façon de discipliner nos sociétés et de dissuader les futurs candidats à la violence, quand bien même convaincu qu'on peut tenir compte, dans le cas togolais, d'autres paramètres au nom de la paix sociale. Je veux faire allusion, par exemple, à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quant aux victimes, il faut commencer par réparer les dommages qu'elles ont subis. Le chemin est long. Et pleine d'embûches.
Maître Afanguedi, merci. Je rappelle à nos fidèles auditeurs de Radio Kanalka que vous êtes le président de ACAT Togo, Action des chrétiens contre la torture au Togo. Le mardi 21 septembre dernier a marqué la journée mondiale de la paix célébrée chaque année. Cette année, le thème est 2010, année de paix et de sécurité en Afrique. Nous recevons à ce sujet tout de suite en ligne depuis Lomé et M. Richard Fung, directeur du groupe et directeur du Centre régional des Nations Unies pour le désarmement en Afrique. Bonsoir, M. Richard Fung.
Oui, bonsoir, monsieur.
Vous êtes le représentant du Bureau des Nations Unies pour la paix et le désarmement et vous résidez actuellement à Lomé. Et quel lien faites-vous concrètement entre la paix et la sécurité en Afrique?
Oui, merci. Je suis le directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le développement en Afrique. Le centre régional a été établi au Togo en 1986 à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette résolution est intervenue à la demande des chefs d'État et de gouvernement de l'ancienne organisation de l'unité africaine devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et pour revenir concrètement à la question que vous m'avez posée, à savoir le lien entre la paix et la sécurité, je voudrais vous dire que de prime abord, l'emploi quotidien de ces deux termes prête à confusion. Il arrive qu'on emploie l'un pour l'autre sans se soucier des distinctions substantielles qui existent. Alors, cette distinction, c'est que la paix, c'est un état de tranquillité, un état d'esprit, un état de bonheur, un état de joie, et alors que la sécurité, elle se rapporte beaucoup plus aux besoins qu'on a. On peut avoir un besoin d'être à l'abri, par exemple, des violences, à l'abri de la faim. C'est ainsi qu'on parle de la sécurité alimentaire. On peut parler également de la sécurité en termes de santé, etc. Donc, la distinction à faire, c'est que la paix, c'est un état de tranquillité, alors que la sécurité, elle se rapporte beaucoup plus à ce dont on a besoin pour être bien dans la stabilité intérieure de notre être.
Oui, oui, Richard Fung, et est-ce que l'Afrique est-elle en paix ou encore est-elle en sécurité, est-elle sécurisée selon vous?
Je dirais qu'aucun continent, aucun pays ne peut dire aujourd'hui qu'il est en paix ou en sécurité absolue. Ces deux notions, paix et sécurité, c'est des notions dynamiques et on les construit tous les jours. Alors, en Afrique, on est en paix de façon relative, on est en sécurité de façon relative selon là où on est. Et il y a des pays qui peuvent se dire être en paix ou être en sécurité. Donc, voilà ce que je peux dire et c'est ainsi que on est tous interpellés à travailler chaque jour pour le maintien de la paix, pour le maintien de la sécurité.
Oui, monsieur Richard Fung, malgré les conflits, les répressions et d'autres pratiques qui n'encouragent pas l'éclosion d'une véritable paix en Afrique, est-ce que l'Afrique pourra-t-elle atteindre un tel objectif et dans combien de temps selon vous?
Je ne pourrais pas mesurer le temps qu'il faudra pour que l'Afrique, le continent africain, soit en paix ou en sécurité de façon absolue. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont déployés tous les jours par les États, par la société civile et par d'autres acteurs pour éliminer les causes de la de l'insécurité, les causes des conflits. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui l'état de l'Afrique aujourd'hui en termes de paix et de sécurité est mieux qu'il y a 10 ans, où on avait une multitude de foyers de conflit, qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, ou de la Corne de l'Afrique. Donc aujourd'hui, le continent est parvenu à maîtriser un peu, je dis un peu, pas de façon absolue, donc vous constatez que je parle avec une certaine relativité, parce que ces termes, comme je viens de le dire, ne peuvent pas être employés dans l'absolu. Alors, l'Afrique fait des efforts, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine ou au niveau des États. Il y a des efforts qui sont déployés tous les jours pour que la paix règne.
Oui, Richard Fung, et au niveau du Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement, vous avez choisi comme thème l'Afrique et le nucléaire. Pensez-vous que les États africains disposent de ressources économiques et minières et adéquates pour développer la technologie nucléaire civile ou militaire?
Nous avons choisi pour célébrer la Journée internationale de la paix qui est intervenue le 21 septembre dernier, mardi dernier, juste parce que nous travaillons en étroite collaboration avec l'Union africaine qui a décrété l'année 2010 comme année de paix et de sécurité. Et nous avons regardé autour de nous, nous avons constaté qu'il y a des acteurs qui aident à cette célébration et il y a donc une panoplie d'activités. Et pour mieux marquer la globalité de cette célébration en termes de, des besoins de l'Afrique dans le domaine de la paix et de la sécurité, nous avons donc choisi l'aspect du nucléaire. Tout simplement parce que le 15 juillet 2009, l'Afrique a vu entrer en vigueur le traité de Pelindaba qui fait de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires. Cet instrument juridique qui a été négocié dans les années 90, plus précisément en 91, lorsqu'il a été signé, ne vient que d'être mis en vigueur sur le continent africain et beaucoup de personnes, même les États, ne connaissent pas bien cet aspect de la paix et de la sécurité en Afrique. Donc nous avons choisi cela pour essayer de vulgariser ce traité, vulgariser son contenu pour faire comprendre aux États, faire comprendre à la société civile et aux peuples africains que, où qu'on soit, la dimension de l'arme nucléaire est importante et on peut être affecté si cette arme a été utilisée quelque part.
Richard Fung, quand on parle de désarmement, on parle déjà de la politique. Vous qui êtes actuellement installé au Togo, que vous inspire la crise politique au Togo? Il semble qu'il y a une régression des droits de l'homme dans ce pays, surtout que les forces de l'ordre répriment sauvagement les manifestations du fracas à Lomé.
Bon, je viens d'arriver au Togo. Ça fait juste un peu moins de 2 mois que je suis là. Je n'ai pas vu l'ampleur de la répression dont vous parlez. Mais tout simplement, je sais que, puisque je suis à mon deuxième séjour au Togo, je sais que nous avions organisé un ensemble d'activités dans le cadre d'harmoniser les relations entre les militaires et les civils au Togo. Et nous avons donc mis de façon permanente un programme de sensibilisation qui a aidé à la sécurisation des processus électoraux au Togo, qui a également aidé à en sorte que le militaire et les autres forces de sécurité sachent quels sont leurs rôles dans un contexte démocratique.
Oui, Monsieur Richard Fung, revenons pour une dernière question et pour le système que vous avez mis en place, le système de désarmement en Afrique. Et depuis le 15 juillet 2009, date de l'entrée en vigueur du traité de Lindaba, l'Afrique est devenue une zone exempte d'armes nucléaires. Pensez-vous que cet instrument de désarmement nucléaire sert les intérêts politiques, économiques et de sécurité de l'Afrique?
Oui, nous pensons que le traité de Pelindaba, c'est une localité hors de Pretoria et c'est là où l'Afrique du Sud avait développé sa bombe nucléaire qui a été détruite dans les années 90. Donc le traité de Pelindaba a été négocié là-bas et donc porte le nom de cette localité pour marquer les esprits que l'Afrique a bel et bien possédé une arme nucléaire, mais elle a de façon volontaire détruit cette capacité dans ce domaine. Alors, est-ce que l'arme nucléaire peut servir les objectifs politiques, les intérêts politiques et économiques du continent africain? Alors, le désarmement nucléaire, oui, peut servir les intérêts politiques, économiques et de sécurité de l'Afrique. Nous n'avons aucun doute parce que, comme j'ai dit plus tôt, lorsqu'il y a un incident nucléaire autour du continent africain, le continent peut être affecté. Et installer donc une zone dénucléarisée qui est respectée par les puissances nucléaires est important et peut épargner notre continent de ces incidences nucléaires. Quand on parle du nucléaire, il ne faut pas seulement le voir en termes politiques, en termes militaires. Il y a également les aspects civils, les aspects économiques. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle d'installer des industries, d'exploiter les ressources minières africaines, par exemple l'uranium qui sert à la fabrication de l'arme nucléaire, mais qui sert également à transformer l'énergie nucléaire à des fins civiles, à des fins de développement économique. J'affirme donc que il y a bel et bien pour le continent africain des retombées du nucléaire en termes économiques et de sécurité.
Richard Fung, merci. Oui, eh bien, c'était Richard Fung, directeur du Centre régional des Nations Unies pour le désarmement en Afrique. Eh bien, la musique adoucit les mœurs. Passons maintenant à la musique, à la page musicale de cette émission, Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Et je vous propose de découvrir un jeune artiste togolais qui évolue actuellement à Genève. Et il s'appelle Mickey Star. J'espère qu'il est déjà en ligne. Mickey Star, bonsoir.
Bonsoir, Amos.
Oui, comment allez-vous? Eh bien, tout va bien à Radio Canal K. Et Mickey, nous sommes là ce soir pour parler de votre album
oui.
Force Tranquille, et sorti en 2010.
Voilà.
D'abord, comment êtes-vous arrivé à la musique, Mickey?
La musique, pour moi, je dirais que c'est une affaire de famille. Tout ce que je fais comme musique aujourd'hui reflète un peu ce que j'ai hérité de ma famille, de mon père qui est musicien aussi, de mon grand-père qui est musicien, de tous mes oncles qui sont des musiciens. Donc, c'est une affaire de famille, voilà.
Oui, Mickey, et avant de continuer avec vous, et nous allons quand même faire découvrir à nos fidèles auditeurs de Radio Canal K un de vos morceaux et qui s'appelle Noué. Et qu'est-ce que vous voulez dire par ce titre Noué?
Noué Maziolo, c'est la personne qui vous a rendu service dans des moments difficiles, qui vous a secoué, qui vous a secouru à un moment donné de votre vie, que vous aviez un problème, qui est toujours là. Donc, c'est Noué Maziolo est une chanson traditionnelle de la musique togolaise que j'ai essayé de refaire, et voilà.
Donc, nous allons écouter nous et Maziolo, mais je vous... restez toujours encore en ligne avec nous, hein. Oui, bien vous écouter Noué Mazondo de l'artiste togolais Mickey Star. Il est encore en ligne avec nous. Mickey, tu es toujours avec nous?
Oui, je suis là, Sylvain. Je suis là. Je vous écoute avec attention. Ouais.
Oui, et Mickey, en écoutant votre album de tout à l'heure, Noué, hein, et le titre Noué Mazondo, on remarque tout de suite le folklore togolais. Étant actuellement en Suisse, à Genève, on a comme l'impression que vous voulez faire un rapprochement des deux cultures, Mickey.
Il faut dire, vous avez si bien dit les choses, le rapprochement des deux cultures, parce que j'hérite un peu des deux. Je suis arrivé en Suisse quand j'avais 13 ans, donc il faut dire que avant mes 13 ans, j'ai vécu à Lomé, au Togo, effectivement, et puis la plus grande partie de ma vie aussi en Suisse. Bon, je fais pas que du folklore togolais, mais je voulais d'abord rendre hommage à cette terre natale, que j'oublie pas mes origines, donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire ce titre-là.
Oui, nous allons encore écouter Banaméo Banana. Et puis, Banaméo Banana, ça veut dire quoi concrètement?
Banaméo Banana, ça veut dire quelqu'un qui te fait quelque chose, tu devais lui rendre aussi. À son tour, il faut être là quand il faut. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça le thème de cette chanson.
Oui, nous allons écouter Banaméo Banana de Mickey Star, le jeune artiste togolais qui évolue actuellement à Genève. Eh bien, Banaméo Banana de Mickey Star est notre invité et sur le plan artistique musical dans Fenêtre sur l'Afrique. Mickey Star, vous êtes toujours en ligne depuis Genève? Oui, Banaméo Banana, et on vient de l'écouter. Alors, quel est le rythme de cette musique pour vous?
Le rythme, comme je viens de le dire, c'est un rythme, si vous voulez, traditionnel togolais. Donc, comme j'ai dit avant, je voulais rendre hommage à cette terre natale qui m'a vu naître et qui m'a tout donné, quoi. J'oublie pas que je viens de là. Donc, dans ce premier album, j'ai voulu quand même rendre à cet honneur-là au Togo que j'aime beaucoup, qui est dans mon cœur. Voilà.
Oui, et Mickey Starr, et à quand votre prochain album? Et si nous voulons parler aussi de la distribution de votre album Force Tranquille, comment est-ce que nous, les auditeurs ou auditrices qui sont actuellement câblés sur le www.kalanka.ch pourront se procurer de votre album?
Celui-là, ce premier album, Force Tranquille. Alors, la commercialisation, je l'ai commencé avec Lomé, donc vous pouvez vous en procurer d'ici deux, trois mois sur le marché à Lomé, puis j'emmènerai éventuellement à Genève, un peu partout, distribué dans les rayons, par exemple au City Disc ou World Music, dans la World Music, dans les rayons comme ça. Sinon, mon prochain album, je travaille là-dessus, ce sera autre chose que le traditionnel togolais. Donc, je suis passionné par la soul et la R&B et tout ça. Donc, c'est dans l'ordre d'une année, deux ans. Je travaille là-dessus et puis ça verra le jour en ce moment-là. Voilà.
Oui, Mickey, le temps est malheureusement contre nous. Nous allons quand même encore savourer de votre titre phare que vous appelez Totchwenvi. Et pour vous, pourquoi le titre Totchwenvi?
Totchwenvi, parce que j'ai remarqué, c'est pas l'histoire qui m'est arrivée personnellement, mais j'ai remarqué que la perte d'un être cher, d'un papa ou d'une maman ou d'une personne proche est toujours très malheureux. Alors ça m'a inspiré à faire une chanson avec la collaboration de mon père. Et puis voilà, ça a donné ça, Totchwenvi.
Oui, et Mickey Starr, le temps est malheureusement contre nous. Je vous remercie encore une fois d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Et je rappelle que vous êtes un jeune artiste togolais qui évolue actuellement à Genève. Encore une fois, bonsoir. Et pour finir, nous allons écouter tous ensemble Totchwenvi.
Merci, monsieur Sylvain Amos, de m'avoir reçu, de m'avoir donné cette chance de dire un mot sur mon album. Merci, bonsoir chez vous.
No vive ve, oh no vive, a culibao. Cabuito joa, e joni cu. Gacameluto lia, e se sen. No vive ve, oh no vive, a culibao.
Bien, fenêtre sur l'Afrique de ce soir, stop et fin. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Excellente soirée à toutes et à tous. Sylvain Amos, Josué Mauli, Esteban Gagnon, collaboration de Fabi Kouassi depuis Lomé. Bonne soirée encore une fois et merci d'être câblé sur le www.kanaka.ch où le programme continue en live.
Nene ba me o magba senko alo akwe a fidepe
suma boima
mo si vena e yeni be nene ba me o magba senko alo akwe la fidepe.